Ce que j'avais à cœur, c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête, effectivement, pendant les vacances, et puis que j'ai repris cette semaine, et qui, là, ça tournait pas mal, et puis ça s'est un petit peu synthétisé, pardon. J'aimerais commencer avec une question. À part le fait, bien sûr, que les disciples ne pouvaient pas comprendre que Jésus allait mourir et ressusciter, ça c'est vraiment impensable vu que c'était jamais arrivé. Hein. Mais à votre avis, quelle était la chose que les disciples ont le moins compris pendant tout le temps où ils étaient avec Jésus sur terre? Et je ne vais pas vous faire répondre parce qu'il y a des milliers de réponses. La seule bonne, c'est celle que j'ai choisie moi, hein, puisque c'est mon sujet, mais les autres sont justes aussi. Hein. Mais vous savez, j'ai parlé il y a quelque temps de nos lunettes, et quand on a un regard, une façon de voir, un angle de vue ou une couleur de lunettes, ben, on voit tout comme ça. Hein. Si vous avez des lunettes bleues, le monde est peuplé de schtroumpfs, si vous en avez des rouges, etc. Et en fait, je pense qu'une des phrases de Jésus que les disciples, mais les chrétiens et les êtres humains, depuis qu'ils ont quitté le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, ont le plus de mal à comprendre, c'est lorsque Jésus est devant Pilate et que Pilate lui dit « Mais à la fin, tu vas me répondre, est-ce que tu es roi ou pas ?» Parce que c'est pour ça qu'on t'envoie devant moi, puis ta réponse va décider « on te tue pas », c'est pas juste comme ça. Hein. Et dans Jean 18, 36, Jésus fait cette réponse « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, je le répète, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » Cette phrase, elle est centrale, me semble-t-il, dans les Écritures, parce que quand on regarde, vous savez que Paul dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Hein. Donc si on parle dans tout l'Ancien Testament, depuis, comme je l'ai dit, le moment où les premiers humains ont quitté le jardin qu'ils devaient cultiver, parce que ça s'était mal passé, pour le dire comme ça, ils n'ont eu qu'un désir, c'est de se construire un royaume sur terre qui dure éternellement. Ce qui est stupide, puisque les hommes savaient depuis le début qu'ils n'étaient pas éternels. Hein. Mais la tour de Babel, et puis etc., etc., etc. Toujours s'installer définitivement sur terre. Or, l'Ancien Testament, alors sous forme d'indices plus ou moins clairs, mais tout le temps, commence à nous préparer à autre chose qui va s'accomplir dans cette parole du Christ. Hein. Déjà, comment Dieu commence? Ben, il prend quelqu'un qui était un sédentaire, qui était dans la culture de l'époque, enfin une des cultures très développées, hein, là où vivait Abraham, il y avait l'eau courante, il y avait des bains, il y avait des bibliothèques, il y avait de l'architecture, c'était un bel endroit. Hein. Et puis Dieu lui dit, prends tes bagages et va-t'en, ou t'occupe, je te dirai en route. Non mais ça ne se fait pas un truc pareil. On ne quitte pas un endroit où on a une maison en dur, avec une salle de bain, avec l'eau courante, avec une bibliothèque, avec Internet, avec tout ce qu'il faut, pour partir à dos de chameau, avec juste, quand même, s'il avait des possessions, il n'était pas pauvre, ouais, soyons honnêtes, sans savoir où on va aller. Mais c'est un truc de fou. Or, Abraham est appelé le père des croyants. C'est notre ancêtre, hein. Et lui, toute sa vie, il a voyagé. Et Abraham avait reçu ça tellement fort de Dieu qu'on voit que, par exemple, quand à un moment, il fait une guerre pour récupérer son neveu Lot qui s'est fait capturer et puis d'autres personnes. Hein. Et pour faire cette guerre, il y a d'autres personnes, d'autres peuples qui s'associent à lui. Et à la fin, il ne veut pas partager le butin avec eux. Hein. Parce que voilà, il a ce sentiment, c'est déjà le début de. Hein. L'histoire continue, et puis le peuple d'Israël, etc. Et Dieu leur donne, parce qu'il s'aperçoit que les hommes ont quand même besoin de choses visibles, mais il ne leur construit pas un temple. Hein. Le temple va venir après, on va dire, Dieu le donne presque, pas à contre-cœur, mais ok, on va faire l'expérience. Hein. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que Dieu a donné? Le tabernacle. Tabernacle, c'est quoi? Hein? C'était la première image, enfin pas la première, c'était encore une image de ce que nous sommes nous aujourd'hui. Hein? Des porteurs mouvants qui se déplacent de la vie de Dieu en nous. Et puis, il donne une façon bien précise de la transporter. on mettra des anneaux, on passera des barres dedans, et puis on transportera avec les barres sur les épaules des hommes. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui m'a... Enfin, il y en a beaucoup, pardon. Il y a, parmi la quantité d'histoires dans l'Ancien Testament qui me dérange, une quand même que je n'arrivais vraiment pas à comprendre, c'est celle où l'arche a été perdue. Et puis David voit que l'endroit où elle est quand même, ça prospère. Hein, là où est la présence de Dieu, ça prospère. Alors il se dit, on va la ramener. Et puis David, ben voilà, il est humain comme nous, même si c'était un gars qui avait des bons côtés. Hein, il se dit, on va faire au plus simple, quoi. On prend le minibus, on la met dedans. Il a un char avec des bœufs. Or, cette arche, on ne devait pas y mettre la main dessus. Il y avait une façon de la faire. Et puis, ben, les bœufs trébuchent, l'arche bouge. Pour pas qu'elle tombe, il y a un gars super gentil, un serviteur de Dieu, un lévite qui est là, qui fait son job à côté. Il met juste la main pour pas que ça tombe par terre. Ça serait une catastrophe si ça tombait. Et le gars, il est foudroyé. C'est horrible, ce truc, quoi. Du coup, David a peur, il dit « Oups, je ne veux pas de cette arche dans ma maison », il envoie chez un lévite, hein. Vous trouvez ça dans le livre des rois, et puis quelques temps après, on vient lui dire à David « Tu sais, la maison là où tu as laissé l'arche, il prospère, hein. Là où est la présence de Dieu, ça prospère ». Et là, David a quand même compris la leçon, il envoie les lévites avec les barres, tout ce qu'il faut, et on ne met pas la main dessus, ce n'est pas à toi, la présence de Dieu ne t'appartient pas. Alors il la transporte et là il fait, par contre, c'est magnifique, il est tellement touché par la présence de Dieu qu'il oublie qu'il est le roi, qu'il oublie qui il est juste un être humain bouleversé par la présence de Dieu, et c'est un peu choquant pour nous, mais il danse tellement que, ben voilà, quoi, il n'était pas trop habillé, et puis on voit sa nudité, et puis sa femme qui est à la fenêtre et qui est, elle, bien ancrée dans le royaume terrestre, « Oh, c'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui !» Et la réponse de David est magnifique, c'est en français courant, j'en ai rien à faire. Et même si à cause de ça, je devais paraître encore plus un imbécile parmi les imbéciles, mais je m'en moque parce que ce que j'ai fait, j'ai dansé dans la présence de Dieu. Et puis, ben, on connaît la suite, parce que le peuple a voulu un roi, Dieu ne voulait pas, il leur donne un roi, ben, ils veulent un temple, on leur fait un temple. Et vous connaissez l'histoire d'Israël, de catastrophe en catastrophe, d'horreur en horreur, ils sont devenus... pas pire, mais exactement pareil que les peuples qui étaient là avant eux. Et puis, ça a continué, de mal en pis, de pis en mal, déportation, tout ce qu'on veut, deuxième chance, troisième chance, encore une chance. Jamais ça va. Et puis, voilà, Jésus naît dans un contexte où le peuple d'Israël est envahi. Les Romains sont là, ils ont tout pris, ils contrôlent tout, le temple est encore là, mais c'est pas très, voilà, c'est contrôlé, etc. Et Jésus arrive là, et ce peuple juif, il a une attente, c'est quoi ? Son bon royaume terrestre. Ils veulent un nouveau David, un nouveau Salomon, un mec qui vient et qui va prendre une armée, qui va bouter les Romains hors de, non pas de France, de Palestine, et qui va leur couper la tête à tous, et qui va être fort, qui va faire des miracles, et on va retrouver la gloire passée, on va pouvoir remettre de l'or sur le temple. Et imaginez que vous avez grandi, et ça fait des centaines et des milliers d'années, enfin en tout cas des centaines d'années, que de génération en génération, on vous dit un jour, on va de nouveau être le peuple qui est puissant, on va avoir là, on va dominer, on va leur couper la tête, on va les tailler en morceaux. Et là, il y a un bonhomme qui arrive dans cette culture, et il commence à parler, et il parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume invisible, un royaume qui est dans le cœur des hommes, où son Père vient faire sa demeure par l'Esprit. Vous imaginez ? C'est totalement incompréhensible. Et tout ce qu'il dit, c'est entendu, lu, compris par des gens qui traduisent. Comment ça va se passer quand il sera roi ? D'ailleurs, on le voit, la maman des disciples qui vient et qui leur dit « Alors, quand tu seras roi, est-ce que mon fils pourra avoir le ministère de la justice et l'autre le ministère de l'intérieur ?»« Ah ben non, c'est moi qui aurai le ministère de... » Ça vous rappelle quelque chose hein ? Bonjour chez les humains. On est tous les mêmes depuis toujours. Et Christ arrive là au milieu, et lui, c'est assez incroyable. Je calculais ce matin, alors on ne pensait pas comme ça à l'époque, mais... l'empreinte carbone de Jésus sur la terre, elle devait être légère. Hein. Marcher à pied, pas construit de maison, pas écrit, donc il n'a pas fallu faire du papier. Hein. Il, vraiment légère. Oui, il devait dégager un peu de gaz carbonique, mais hein, à peu près tout. S'il avait voulu d'un royaume terrestre, il en aurait posé les fondations. Et ce que je dis, ce n'est même pas une déduction d'un poète qui aimerait que les choses soient éthérées et dans l'air. Jésus l'a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Rappelez-vous, quand Pierre a sorti son épée pour le défendre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Stop, 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 stop !» Il a même réparé l'oreille du gars que Pierre avait abîmé, quoi. Le même Pierre qui, d'ailleurs, quelques temps après, va prêcher « Vous, ici, prêtez l'oreille ». Je trouve ça un peu étrange. Hein, bon, passons, ce n'est pas le sujet. Ça m'a traversé comme ça. Hein. Et il répète « Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici ». Et Paul, s'il y avait quelqu'un qui voulait un royaume terrestre avant d'être percuté par le Christ, c'est lui. Hein. Puis lui, il avait compris comment ça fonctionne un royaume terrestre. Dans un royaume terrestre, il y a des chefs. Les chefs, ils sont plus forts que les sous-chefs, qui sont plus forts que les sous-sous-chefs, qui sont plus forts que les sous-sous-chefs. Et puis, forcément, dès qu'il y a un chef, il y a des opposants au chef. Et les opposants au chef, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les tue. On les persécute, on les éloigne, on les... Hein, on les met de côté, on les maîtrise, on les manipule, parce que pour rester le chef, c'est compliqué, parce que quand vous êtes en haut de cette pyramide-là et que vous êtes le chef dans n'importe quel royaume humain, qu'il soit petit, grand, que ce soit une association de 12 personnes, une église de 30 ou de 20, ou un empire, c'est toujours la même chose. Tous les autres, là, c'est éventuellement des concurrents, parce que ce qui les gêne, c'est pas qu'il y ait un chef, c'est que ce soit pas eux. L'être humain veut toujours établir son royaume sur terre, avec des choses solides, matérielles, où on contrôle, où on dirige. Hein. Et Jésus vient avec autre chose. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et Paul, ce Paul qui voulait se battre pour qu'il y ait un roi, un État juif, hein, tout d'un coup, il devient lui aussi un paria qui n'a plus rien. Il perd sa réputation, il perd tout, et puis il va d'un droit à l'autre. Alors il travaille de ses mains pour manger, parce que, ben, il est... Hein. Et il leur explique. Mais les êtres humains étant ce qu'ils sont, c'est terrible. Et ces derniers temps, j'ai fait, j'allais dire malheureusement, pas malheureusement, mais un survol de l'histoire de l'Église. J'ai même questionné des gens beaucoup plus érudits que moi, parce que je ne suis pas du tout érudit. Et je n'ai pas trouvé dans l'histoire... un seul exemple positif d'un royaume chrétien sur terre. Jamais. Comme Israël, ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas marcher. Parce que dans son essence, le royaume de Dieu, il est immatériel. Alors oui, vous allez me dire, on a un bâtiment. Évidemment, on a un bâtiment. On a une maison, on peut avoir une association, on peut avoir une école pour former les gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait rien avoir, hein. On est des êtres humains, et Paul, il a loué une école d'un philosophe pour enseigner les gens. Enfin, il faut du bon sens. Mais notre royaume n'est pas de ce monde. Et il y a une expression qui revient souvent, enfin souvent plusieurs fois dans le Nouveau Testament, qui est magnifique. Pierre et les Hébreux, hein, étrangers et voyageurs sur cette terre. Pas juste étrangers, pas juste voyageurs. Étrangers et voyageurs. Je vais les lire. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme, etc. etc. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, c'est encore plus fort parce qu'il dit, donc c'est la liste des héros, hein, Hébreux 11, là, tous ceux qui ont fait. Et puis, ça c'est dans l'Ancien Testament, ils ont coupé des têtes, ils ont gagné, ils ont conquis. Puis on bascule dans le nouveau royaume. Et en fait, les héros, c'est quoi? C'est des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur main, qui vivent dans des grottes avec des peaux de bêtes sur le dos parce qu'on leur avait piqué leurs habits. Et puis, si on les attrapait, on les tuait. Et il est dit de ces gens-là, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ah ben zut! Moi, je le voulais, mon royaume sur terre, je voulais mon petit trône. Ok, peut-être pas premier ministre, mais quand même au moins secrétaire d'État, quoi. Hein, ils les ont vus. Ah, quand même, ils les ont vus et salués de loin. Reconnaissant, étant conscients, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pas beau, ça ? Cet été, j'imagine la plupart, on a eu ou on va avoir des vacances. Hein. Quand vous allez en vacances, je ne sais pas, je sais que Jean-Jacques a été à Izenflouz. Il a vécu dans la maison d'Izenflouz, que nous aimons tous. Hein. Il a utilisé des chaises, il a cuisiné, il a utilisé des casseroles, il a mangé, il a utilisé des fourchettes, et etc., etc. Il a dormi dans un lit, mais ce n'était pas les siens. Il savait qu'il était vacancier temporaire dans cette maison. Il les a utilisés, c'était le but. Mais ce n'était pas les siens. En partant, il n'a pas dit « je prends mon lit ». Non, ce n'est pas le tien. « J'ai glissé quelques fourchettes dans mon sac ». Non, ce n'est pas à toi. Ben, c'est comme ça qu'on doit vivre sur Terre. Évidemment qu'il nous faut une chaise pour s'asseoir, un lit pour dormir, une table pour manger. Mais on est de passage, on est étranger. Vous savez ce que c'est d'être étranger ? Moi, je le sais un peu. Mais c'est gentil, mon expérience à moi. Mais quand même, il y a toujours quelqu'un pour vous faire remarquer que vous n'êtes pas vraiment d'ici. On vous le dit gentiment, c'est une petite plaisanterie. C'est... Ouais, mais toi, tu n'es quand même pas vraiment d'ici. Ouais, mais ça fait 17 ans que je suis. 17 ans, c'est rien. Effectivement, 17 ans sur 60, c'est rien. Hein. Mais étranger. Hein. Mais pas juste étranger. Et voyageur. Je suis étranger, et en plus, ce n'est pas sûr que je vais rester ici. Je suis en route pour ailleurs. Mais ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas triste, ce n'est pas horrible. Pourquoi ? Parce que cette patrie que nous avons saluée de loin, nous en avons les arts, les prémices, ou pas dans une association humaine, pas dans un pays hypothétiquement chrétien qui existerait quelque part, même une cité faite par un réformateur où enfin la Bible serait appliquée et où on pourrait brûler les hérétiques, ah, ça irait mieux, hein ? Non, où ? Jésus l'a dit clairement, parce qu'il parlait tout le temps de ce royaume, mais il ne faisait rien pour chasser les Romains, et à un moment on lui dit, mais il est où ton fameux royaume ? Parce que t'es joli, toi, tu parles, il est où ? Mon royaume ne vient pas de façon à frapper les regards, mais voici, le royaume est au-dedans de vous. Comment ça, au-dedans de vous ? Mais c'est pas sérieux, ça. Hein ? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Hein ? Lisez l'évangile de Jean, la prière de Jésus. Il a prié pourquoi ? Comme le Père est un avec le Fils, avec l'Esprit, que nous soyons un avec lui. Et lorsque je suis un avec le Christ, lorsque la vie éternelle est manifestée en moi, cette vie qui jaillit, alors le royaume de Dieu est manifesté. Paul l'a traduit comme ça, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs d'un pays qui n'est pas ici, mais que nous connaissons, nous l'avons salué de loin, mais nous l'avons goûté aussi. Hein. Les apôtres disent, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, on en vit, c'est là. Et il y a ces moments où on le voit, et puis il y a ces longs moments où on ne le voit pas, on l'a salué de loin, et puis là, zut, on est juste étranger et voyageur. Et comme Abraham, on ne sait pas exactement, oui, la destinée, d'accord, finale, mais on ne sait pas trop par où va passer le chemin. Et quand on demande et la route de main, Jésus nous dit, que t'importe, toi, suis-moi. Oui, mais on va où ? Tu verras avec moi. Jusqu'à quand ? Ben, tu verras jusqu'à quand. On ne pourrait pas avoir un bon roi chrétien dans un bon pays chrétien, avec des bonnes lois chrétiennes, où on pourrait persécuter ceux qui ne sont pas les bons chrétiens et obliger les gens à penser comme nous, puisqu'on a raison, hein, forcément. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et chaque fois que les hommes ont fait ça, ça a donné quoi ? On a eu Constantin, hein, qui a persécuté tous les gens pour qu'ils deviennent chrétiens. On a eu les schismes d'Orient, parce qu'il y avait deux chefs. Finalement, ils ont décidé, ben, peut-être si on coupe le gâteau en deux, on pourra être deux. Hein. Ça n'a pas été mieux. Après, on a inventé les croisades. On a eu l'Inquisition. Alors, il y a eu la réforme, c'est génial. Reviens à la parole, sola scriptura. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont persécuté nos chers anabaptistes qui sont trouvés refuge dans les montagnes. Abrités par qui ? Par les catholiques, pour des raisons politiques, pour qu'ils aillent défricher la montagne. Il n'y a pas un exemple où ça a marché. Jamais. Et on voudrait continuer dans cette voie-là. Mais c'est triste. Et pourtant, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et regardez, Paul n'était pas un homme doux, hein, on est d'accord. Hein, mais regardez la douceur de ses paroles. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et c'est pourquoi nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'évangile. On est loin de l'épée qui va imposer des lois chrétiennes pour qu'après les gens deviennent chrétiens. Non, non, non. De l'extérieur vers l'intérieur, c'est la religion. La religion, c'est pas Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a dit « Le monde entier gît dans la main du malin ». Moi, je suis toujours sidéré quand les chrétiens sont surpris parce que le monde est mauvais. Vous n'avez pas lu votre Bible ? Le monde entier, le monde entier, le monde entier gît dans la main du malin. Alors, les méchants de gauche, de droite, de ci, de ça, athées, religieux, croyants, pas croyants, ils font tous la même chose. Ils veulent quoi ? Le pouvoir. Le pouvoir par l'argent, le pouvoir par la force, le pouvoir par la théologie, le pouvoir par ci. Je veux être celui qui en ont et qui contrôle. Et je suis pareil. Je suis pareil. Dieu m'a béni, il m'a évité une épreuve. J'ai eu plein d'épreuves dans ma vie, plus ou moins. Il y en a une qui m'a évité, je ne pense pas que j'aurais réussi. C'est le succès. C'est terrible. Quand tout vous réussit, waouh. À ce moment-là, résistez à... Dressons-là trois tentes, mais les tentes, on va les faire en dur, et puis on va mettre un petit péage pour entrer, et puis on va faire un parking, et puis on va s'installer. C'est pas pour rien que Jésus marchait tout le temps. Qu'est-ce qui aurait empêché Jésus de faire un campus ? Et les gens venaient étudier, puis on posait les bases de quelque chose de solide. Hein ? De laisser des livres avec des cours, avec des manuels, avec un truc à signer quelque part. Il ne l'a pas fait, Paul ne l'a pas fait, les premiers chrétiens ne l'ont pas fait. Mais jamais ils ont voulu le faire. Chercher un endroit dans le Nouveau Testament où il est dit qu'il fallait faire ça, il n'y en a pas. Mais nous on veut ça. Hein ? Et on continue de vouloir ça. Et ce qui est grave en fait, c'est que... Tout le temps, l'énergie dépensée par les enfants de Dieu, sincère, hein, à vouloir établir un royaume sur terre, c'est du temps qui n'est pas passé à être en communion avec Dieu. Et le diable se frotte les mains. Allez-y, construisez-le votre royaume. Ça ne me gêne pas que sur votre royaume, il y ait marqué chrétien, qu'il y ait des croix, qu'il y ait tout ce que vous voulez, vous pouvez le peindre avec des doutes. Ça ne me gêne pas. La seule chose que je crains, c'est quand le royaume invisible est manifesté. Alors ça, il craint. Mais nous, on est tellement occupés à construire le royaume visible, solide, dur, d'avoir raison, que du coup, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps pour... Hein, quand on parle, vous avez du temps pour méditer ? Je n'ai pas le temps, qu'est-ce que vous faites ? Ben, je suis occupé, mon église, avec ci, avec ça. Mais on a l'inverse. Le travail de Dieu, c'est toujours, je touche les cœurs, et après, l'extérieur change. La religion, c'est, on met le cadre, on change les gens, et après, ils vont changer. Non, ils ne vont pas changer. Citez-moi un seul exemple où ça a marché. Dans l'Ancien Testament, jamais. Dans le Nouveau, jamais. Je disais, pour ceux de ma génération, qui a fait couper ses cheveux quand il avait des cheveux longs, parce que les prédicateurs prêchaient que si vous aviez des cheveux longs, vous alliez en enfer. Qui a arrêté d'écouter du rock parce que les prédicateurs nous disaient que c'était un péché, hein ? Qui a arrêté d'écouter des morceaux avec la batterie parce qu'on nous disait que la batterie, c'était du diable ? Non. Mais par contre, il y a des choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Il y a des choses que je ne fais pas, il y a des endroits où je ne vais pas, il y a des choses que je ne regarde pas. Pourquoi ? Parce que la vie de Christ en moi m'a transformé et que je vois ces choses-là, quand je m'en approche, le royaume en moi, il pleure, il est triste. J'attriste l'Esprit de Dieu. J'ai plus cette vie éternelle en moi. Alors, à moi de choisir, et malheureusement, souvent, je fais le mauvais choix, et je dis, ouais, ben, c'est bien beau, mais il n'est pas visible. Moi, j'ai quand même besoin d'un peu de quelque chose de concret, de visible, de dur, et je vais dans la mauvaise direction, et je perds du temps, et je me fais mal. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu m'aime quand même, ça n'a rien à voir, et il me pardonne. Mais je vois que le temps passe vite, je vieillis. Et je me dis combien de temps j'ai perdu à essayer de construire un royaume terrestre. Le royaume où Philippe serait roi. Hein. Alors peut-être il est tout petit, mais ce n'est pas grave. C'est comme dans les planètes du Petit Prince, ils étaient tous contents sur leur planète, là, parce qu'ils étaient au moins le roi de rien, mais de quelque chose, de leur rien à eux. Hein. Et bien sûr, ça arrive jusqu'à ma vie. Je veux être le roi de ma vie. Hein, pour les gens qui n'ont pas d'ambition de construire quelque chose de plus grand. Mais c'est la même chose. C'est juste une question d'échelle, mais ça ne change rien. Et on doit revenir à ce Christ qui marche, qui se déplace, qui est là. On dirait qu'il fait rien. On dirait juste. Hein. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, pêche plus. Ouais, mais toi, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ouh, ça c'est difficile. Hein. Et puis il est là, il parle, il va, il vient, il se promène, on ne sait jamais d'où il vient. Hein. Et puis il dit, bah, les renards, ils ont des terriers, les oiseaux, ils ont des nids, moi, je n'ai pas. Mais il ne dit pas ça tristement. Pourquoi ? Ben, il nous expliquait, je suis étranger et voyageur, je suis avec vous, mais c'est mieux que je m'en aille, parce que je vais vous laisser mon esprit. Et on est appelé à ça. Alors, on appelle traditionnellement ce culte le culte de rentrée. Hein, voilà, c'est comme ça sur le programme. Et ben moi, ce que je nous souhaite pour cette rentrée, c'est qu'on rentre encore un peu plus dans cet invisible royaume. Et puis, pour continuer à avancer, il est dit de ces gens qu'ils l'ont vu et salué de loin. Vous savez, la réponse à tous les péchés, le mal, le problème du monde, c'est Christ. Et quand dans ma vie, je perds de vue la personne de Christ que j'ai saluée de loin, mais qui est en moi, eh ben, je cherche à m'installer ici comme si j'étais éternel. Donc la question s'appelle l'approche là aussi, parce qu'on peut traiter ce que j'ai dit ce matin encore avec la mauvaise façon. Ah, il ne faut pas, il ne faut plus, il faudrait. Non ! Sinon, on refait pareil. J'ai besoin de m'accrocher à Christ, de le voir, de le toucher, de le comprendre. Mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc. Alors oui, il y a des endroits où il n'est pas, ça c'est clair. Hein. Comme je dis tout le temps, montez pas sur le manteau, cherchez des bananiers, peut-être dans 100 ans, mais pour le moment, il n'y en a pas. Hein. Donc il y a des endroits où je ne vais pas le trouver. Il y a des endroits où je peux le trouver, dans sa parole, dans la nature, avec les gens, quand je fais quelque chose d'utile. Mais ce n'est pas parce que je peux le trouver que je vais le trouver. Pourquoi ? Parce que. Hein ? Parce que l'attente, comment c'est qu'elle dit dans le dessin animé ? L'attente augmente l'amoureuse ardeur. C'est la poule qui dit ça dans Robin des Bois, des dessins animés. Hein ? Elle dit ça à Marianne. L'attente augmente l'amoureuse ardeur. Lisez le Cantique des Cantiques. Il est là, il n'est plus là, il nous cherche, etc. Christ est un amant romantique. C'est pas tous les jours, là, 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 on se retrouve là, là, on va prendre la Saint-Valentin, on mange un repas ensemble. On ne sait jamais où il est. Il est dans les endroits où on ne l'attend pas. Mais il est là, il nous cherche, il attend pour nous faire grâce. Il veut nous rencontrer, il veut nous remplir de sa vie. Et au lieu de construire un royaume que de toute façon on va quitter parce qu'on va partir, on marche dans ses pas, on est son ambassadeur, on porte ce trésor dans des cruches de terre, dit Paul. Et le mot qu'il utilise, c'était les pots de chambre, là, vous savez, la cruche de bas de gamme. Quoi, hein. Alors, on peut passer notre vie à essayer de faïencer la cruche, de la décorer. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Ça reste une cruche, sinon. Hein. Je ne vous ai pas traité de cruche, je parlais de moi. Mais voilà. Alors, je nous encourage, parce que j'en ai besoin désespérément, pour... Ben, voilà, c'est la rentrée, on repart ensemble. Cherchons ce royaume. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas juste un chant, c'est Jésus qui l'a dit. Et nous, on cherche d'abord tout le reste et après, on veut convaincre Dieu de rentrer dedans. Non, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais pourtant, vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas du monde, Jésus a dit, mais vous êtes dans le monde. Et je ne veux pas que vous en sortiez. C'est ça le truc qui est fou, quoi. C'est pour ça qu'on est ambassadeur. Et on est ce tabernacle, on se déplace, et il y a des petites lumières autour de nous. Hein. Briller comme des flambeaux dans les ténèbres. Quelqu'un qui était peut-être moins chrétien a dit, au lieu de maudire les ténèbres, allume une bougie. Hein.
Pourquoi il fait noir? Il ne faut pas qu'il fasse noir, il ne faudrait pas faire noir, c'est pas bien, le noir, c'est pas bien. C'est... Non, allume une bougie. Sois un flambeau. Vide la vie du Christ. Et le reste va se faire. Et je ne prêche pas pour vous. Hein. Enfin, si, pour vous aussi, mais c'est pour moi. Seigneur, merci parce que tu nous défies d'être ces étrangers, ces voyageurs sur cette terre que nous allons tous quitter un jour, mais pour le moment sur laquelle tu nous as confié d'être tes ambassadeurs, de vivre pour toi et d'être les témoins vivants de ce royaume qui n'est pas de ce monde. Et nous voulons ce matin, et nous l'avons déjà fait dans ce moment de louange, dans ce que nous avons vécu ici, par ton esprit, nous avons pu saluer ta présence, la voir, la toucher, de près et de moins près. Mais on veut en vivre, on veut te manger, on veut te boire, comme tu nous l'as dit. On veut vivre de toi, on veut être un avec toi par ton esprit. Et on veut accepter que tu nous mettes en mouvement, et d'être ces gens qui marchent après toi, comme notre arrière-grand-père Abraham, sans savoir vraiment où on va, mais en sachant aussi que tu es avec nous et qu'on va vers toi. Alors, change nos lunettes, change nos regards, change notre désir de nous établir ici-bas, pour toujours, et que nous sachions être reconnaissants, profiter, utiliser tout ce que tu nous as donné, en sachant que voilà, nous sommes de passage et nous l'utilisons, mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas pour toujours. Mais tu seras toujours avec nous et nous serons toujours avec toi. Merci notre Dieu. Amen.